Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, module 13. Dieu appelle, mais comment ? Il va être question de l'optimisation du CV. En effet, les chrétiens ne l'écrivent pas tout seuls dans leur coin, mais en tendant l'oreille vers Dieu. Que veut Dieu de moi ? Pourquoi j'existe ? Dans les anciens mythes religieux, les dieux sont souvent des personnages muets et versatiles. Quand la météo et les récoltes étaient mauvaises, quand on perdait des guerres, on savait que les dieux étaient fâchés. Il fallait les supplier, les implorer, faire quelques sacrifices en plus, et le monde tournait rond de nouveau. Même parmi les chrétiens, on retrouve encore des vestiges de cette représentation primitive de Dieu. Il y a plusieurs milliers d'années, au Moyen-Orient, l'humanité a seulement commencé à se rendre compte que Dieu était différent, très différent de ce que nous pensions. Pour Abraham, un Dieu apparaît soudain, qui est à portée de voix, un Dieu qui veut quelque chose, et pas seulement des holocaustes, des sacrifices d'animaux, voire d'êtres humains. Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Ce que Dieu veut, c'est tout à fait dans l'intérêt de ce prince nomade. Tu deviendras une bénédiction. À partir d'Abraham commence une longue histoire avec un Dieu qui se mouille, qui bénit et qui appelle à le suivre, qui appelle à sortir de sa propre misère. C'est d'abord quelques personnes qui en font l'expérience, puis le peuple d'Israël et ensuite le monde entier. Ça devient très clair avec Jésus, qui n'appelle pas seulement des pécheurs à devenir des pécheurs d'hommes, à une sorte de service spécifique, mais qui prévoit une vocation particulière pour chaque être humain individuellement. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Jésus veut fondamentalement nous entraîner dans une relation de communication, d'amour et d'amitié avec Dieu. Et lui qui est Dieu, il entre aussi dans la partie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Mère Teresa a réfléchi intensément sur ce Dieu qui est à l'écoute et qui appelle. Pour Dieu, tu es unique. Il veut te rendre hommage en te remplissant de sa présence. Il t'a appelé, tu lui appartiens. Si tu le reconnais, tu peux surpasser toute erreur, toute humiliation, toute souffrance, si tu reconnais l'amour personnel de Jésus pour toi et ton amour pour lui. D'ailleurs, chaque vocation a un visage particulier. Souvent, ce n'est pas nous qui avons choisi ce à quoi Dieu nous appelle et où il nous place. Je connais une femme qui est appelée de moribond en moribond, parce qu'elle sait très bien aider les gens à mourir, les aider à réussir leur passage vers la patrie éternelle. Aujourd'hui, elle le sait, c'est ma vocation. Ceci dit, il n'y a pas seulement des vocations générales dans l'Église. En quoi consiste la vocation particulière d'un évêque ou d'un prêtre ? La réponse la plus courte est « il est un successeur des apôtres. Il fait ce que les apôtres faisaient. » Dans le Nouveau Testament, on peut trouver la structure originelle de l'Église. Pour toujours, le maître de l'Église, ce sera le Christ. Il est celui qui agit. Il pardonne les péchés, il enseigne, il guérit, il se livre lui-même. Et autour de Jésus, il y a les disciples. Jésus les a appelés près de lui pour les enseigner. Ils regardent ce que fait Jésus, ils lui parlent, ils assimilent ses intentions. Ils sont envoyés deux par deux en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Ses disciples, Jésus ne les appelle plus des serviteurs, mais des amis. Les disciples sont le moteur de l'Église. C'est peut-être la clé pour comprendre la crise actuelle de l'Église. Il manque des disciples et des groupes de disciples, c'est-à-dire des gens qui, de par une relation personnelle avec le Christ, s'engagent pour lui dans leur environnement habituel. À ce sujet, on peut penser aux religieux, mais ceux-ci ne réalisent que symboliquement ce que tous les disciples sont censés faire. Parmi ses disciples, donc, Jésus en choisit quelques-uns, les apôtres. Il les retourne un peu comme une crêpe, leur fait prendre un virage en direction de l'Église et d'un ministère indispensable. Ils font par procuration ce que seul Jésus peut faire. Construire l'Église par le biais des sacrements, notamment l'Eucharistie. Il pardonne les péchés. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Ils enseignent aussi, à temps et à contre-temps. Et ils dirigent l'Église au nom de Jésus. Il y a aussi, aujourd'hui, une grande discussion autour du prêtre, et pas seulement au sujet du célibat. Certains pensent que l'on pourrait très bien organiser l'Église sans prêtre. C'est une grave erreur. Autant on peut discuter du célibat des prêtres, il s'agit d'un signe particulièrement approprié demandé par l'Église. Le célibat a quand même été le mode de vie de Jésus. Mais une Église sans prêtre est impensable. Ce serait en détruire un élément constitutif. D'ailleurs, là où l'Église rassemble des disciples, il y a aussi des vocations au sacerdoce. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, module 14. Qu'est-ce que le célibat ? Il va être question du secret de la vie de Don Camillo, qui était un grand amoureux et pas du tout un être solitaire. Dans la vraie vie aussi, les prêtres sont des êtres relationnels. Ils vivent de Dieu. Cela m'étonne toujours quand des laïcs ne voient qu'un seul problème dans l'Église, le célibat. Personne n'oblige des chrétiens à suivre le conseil du Christ et à vivre le célibat à cause du royaume des cieux. Personne n'est obligé de le faire. Malheureusement, certains religieux et prêtres ne donnent pas vraiment envie. Lors d'une journée de rencontre, j'ai été témoigne d'une discussion ahurissante. Le directeur d'un séminaire expliquait que les séminaristes devaient vivre le célibat dans la joie, qu'ils devaient choisir cette vie, malgré certains renoncements sentimentaux, parce qu'ils n'en voyaient pas d'autres pour eux. Fortement contrarié, un autre prêtre lui a répondu que c'était scandaleux de dire une chose pareille et qu'aucun homme normal ne s'y plierait. Le premier n'a rien retiré de son affirmation audacieuse, mais cet échange n'a pas été très marketing. Tout d'abord, cela semble assez logique que des religieux vivent le célibat. En ce qui concerne les prêtres, depuis les débuts, il y a toujours eu aussi des prêtres mariés dans les églises catholiques unies. L'Église catholique romaine demande à ses évêques et à ses prêtres depuis environ 1000 ans de vivre le célibat, ce qu'elle pourrait changer à tout moment. Mais il lui faudrait trouver de très bonnes raisons pour le faire. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'y avait pas seulement des raisons spirituelles, mais aussi des raisons politiques pour introduire le célibat des prêtres. Si les prêtres étaient liés par des liens du sang, le risque serait trop grand que ce qui est sacré devienne héritage, patrimoine familial. Il s'agit donc seulement d'un commandement de l'Église. Énumérons rapidement les raisons qui aujourd'hui parlent contre le célibat. Il y a d'abord le fait que certains, vraisemblablement, ne le vivent pas par conviction. Ensuite, il y a le scandale des abus qui, vu de l'extérieur, donne l'impression que les clercs seraient tous des pervers insatisfaits, ce qui n'est pas du tout vrai. Et sans qu'on s'en rende compte, ce grand signe de l'existence d'un autre monde devient dans l'opinion publique un désastreux contre-témoignage, puisque ce sont surtout des jeunes garçons qui se font abuser par des prêtres. Vraisemblablement, un nombre assez important d'hommes qui n'avaient pas la vocation et qui souffraient d'un manque de maturité sexuelle ont voulu devenir prêtres. On ne peut qu'espérer que les responsables l'ont bien compris. Troisièmement, il y a un manque de prêtres. C'est mis sur le compte de la vie célibataire considérée comme un obstacle insurmontable. Et en effet, il y a de plus en plus de paroisses qui ne peuvent pas célébrer régulièrement l'Eucharistie par manque de prêtres. Dans certains diocèses, il n'y a presque plus de séminaristes. On aurait donc plusieurs bonnes raisons pour dispenser les prêtres du célibat. Or, il existe justement une raison primordiale en sa faveur. Le célibat a été la forme de vie choisie par Jésus. Jésus lui-même a vécu complètement pour le Père. Et de par cette relation singulière avec le ciel, Jésus était complètement à disposition des gens. Qu'il aurait eu une maîtresse, Marie-Madeleine, qu'il aurait même été marié, ce ne sont que des élucubrations d'écrivains de seconde catégorie. Jésus lui-même a invité à vivre cette vie du entièrement pour Dieu qui interpelle. Déjà dans l'Église des débuts, les chrétiens étaient convaincus que pour les successeurs des apôtres, aujourd'hui les évêques et les prêtres, il était bon qu'ils vivent comme Jésus. Jésus est en rupture avec l'antique train-train de générer, naître et mourir, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Les célibataires qui ont reçu ce don de Dieu vivent cette nouveauté radicale qui a commencé en Jésus et qui augure du monde nouveau. Ainsi Dieu est déjà aujourd'hui tout ce dont l'homme a besoin. Un jour, nous aussi, nous comprendrons ce qu'a dit sainte Thérèse d'Avila. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Le prêtre qui vit son célibat de manière pieuse et édifiante représente le Christ par sa propre vie. Il n'est pas un fonctionnaire qui a juste un job comme un autre, qui tond le gazon devant sa maison et joue aux cartes avec ses enfants. L'Église est toujours et encore convaincue que Dieu envoie suffisamment de vocations là où le terreau est favorable pour de jeunes disciples sincères qui souhaitent suivre le Christ. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a, à certains endroits, pléthore de séminaristes, tandis qu'à d'autres, les séminaires sont tristounés, les congrégations religieuses se vident. En tout cas, ça ne peut pas être la solution de banaliser le sacerdoce au point de proposer à des théologiens une sorte de plan de carrière et un bon poste. Petite parenthèse, ce serait une bonne idée d'éliminer le mot « célibat ». Le terme est mal choisi. Il vient du mot « kaelebs », qui vit seul. Or, c'est justement ce qui ne devrait jamais arriver aux célibataires pour le royaume des cieux, de vivre seul pour lui-même. Ou bien il est en relation, c'est-à-dire qu'il vit une longue histoire d'amour avec Dieu, ou bien il dépérit et finit par devenir un vieux célibataire un peu grincheux. Le célibat vécu comme un signe est au contraire très ouvert aux autres. C'est de l'amour, c'est du lien, c'est de la communauté. L'audace d'une vie célibataire est certainement plus proche de l'audace du mariage que de la peur de s'engager de certains vieux garçons en puissance. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du Grand Catéchisme International pour la Jeunesse, le UCAT. UCAT Vivre en chrétien, module 15. Qu'est-ce que le mariage à l'Église ? Il va être question de pourquoi il faut absolument trouver la personne qui vaille la peine d'être amenée à l'Église, à l'autel, avec un prêtre et tout et tout. Que Dieu ait créé l'être humain en tant qu'homme et femme est probablement une de ses meilleures inventions. Qu'est-ce que le monde serait triste s'il n'y avait pas l'amour, l'éros et toutes ces différences fascinantes entre les hommes et les femmes ? Il y a 6500 différences génétiques entre les hommes et les femmes. Et malgré ça, les femmes plaignent souvent les femmes qui ne travaillent que avec des femmes. Que des femmes, comment fais-tu pour supporter ça ? Et inversement, que des hommes, ça doit être mortel. Dieu n'a pas seulement créé l'homme et la femme différents, il les a aussi créés l'un pour l'autre. Ils se complètent et ensemble, ils laissent entrevoir leur ressemblance avec Dieu. Dieu sait bien que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et il a trouvé une sorte d'astuce, une base commune pour que l'homme et la femme demeurent ensemble sur la durée, l'amour. Que l'amour entre un homme et une femme mène au mariage n'est pas l'invention des belles-mères. C'est ancré dans l'essence de l'être humain et dans l'essence de l'amour en tant que tel, se lier sans poser de conditions. L'amour est quelque chose de très profond, un état de vie où une personne considère l'autre comme valant un prix incommensurable jusqu'à donner sa propre vie pour l'autre. L'amour fait qu'on se donne à l'autre définitivement, irrationnellement, sans condition. Et si je tombe malade, on s'en fout. Et quand j'aurai des cheveux gris, pour moi tu seras toujours beau. Albert Camus à ce propos. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. L'amour est un cadeau. On ne reprend pas un cadeau. L'homme et la femme créent un espace chaleureux où les enfants peuvent naître et grandir heureux. Le pape François nous prévient. Le mariage est aussi un travail de tous les jours. Je pourrais dire un travail artisanal, un travail de joaillerie. Parce que le mari a la tâche de rendre son épouse plus femme et la femme a celle de rendre son mari plus homme. Et comme cela, je ne sais pas, je pense à toi. Un jour tu seras dans la rue, dans la ville où tu habites, et les gens diront « Regarde, quelle belle femme, comme elle est forte. Avec le mari qu'elle a, c'est compréhensible. » Et aussi à toi. « Regarde celui-là comment il est. Avec la femme qu'il a, c'est compréhensible. » C'est cela, parvenir à cela, nous faire grandir ensemble l'un l'autre. Pour que puisse tenir ce qui, humainement parlant, est risqué, l'homme et la femme se donnent mutuellement, en présence d'un prêtre, le sacrement du mariage. C'est plus fort qu'un simple contrat de mariage. Dieu propose une alliance au couple. Il prend part à la communauté de l'homme et de la femme et les fait participer profondément à son propre amour divin et irrévocable. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Toutefois, avant qu'ils ne se promettent un amour fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ils doivent comprendre ce qu'est le mariage. Et au risque d'en étonner certains, la sexualité en fait partie. Le mariage ne se réalise justement pas seulement par une promesse, mais aussi parce que l'homme et la femme couchent ensemble et donc deviennent une seule chair. Et dire qu'il y en a qui pensent que Dieu se fiche complètement de la sexualité. En soulignant l'indissolubilité du mariage, Jésus ne pose pas sur nos épaules un fardeau pesant. Au contraire, il nous aide à y arriver. À ne pas seulement attendre à recevoir le grand amour du conjoint, mais de lui. Ce n'est que par rapport à Dieu que ce passage du Cantique des Cantiques est vrai. L'amour ne passera jamais. Il y a encore quelques conditions supplémentaires. En arrivant devant l'autel, ils doivent tous deux être libres de tout lien. La promesse doit tout englober et être faites en public. Ils doivent chacun consentir à faire le pas librement. Si, au moment du mariage, l'un des deux fiancés était contraint, avait peur, agissait sous une pression interne ou externe, le contrat de mariage ne serait pas valide. On n'épouse pas papa ou maman, ou parce qu'on veut enfin quitter la maison de ses parents. On ne doit pas se marier à l'église en pensant secrètement « essayons voir, ça passe ou ça casse ». De même, le mariage ne se fait pas si l'un des fiancés n'a pas du tout l'intention d'arrêter de flirter, n'est pas décidé à arrêter définitivement toute relation amoureuse extra-conjugale. Il reste encore un dernier obstacle à franchir. Ils doivent tous deux être prêts à accueillir des enfants. Si l'un pense dans son fort intérieur « des enfants, jamais de la vie », le mariage n'est pas valide. Pour découvrir toute la beauté et la grandeur du mariage chrétien, il faut comprendre qu'il symbolise la fidélité et le don de Dieu lui-même. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, module 16. Qu'est-ce que les commandements ont à voir avec l'amour? Il va être question de comment bien agir et avec bienveillance et pourquoi on a tous besoin d'un cadre pour éviter de tomber dans le panneau. La conscience est un sujet délicat. Beaucoup s'en passent toute leur vie durant. Ce qui a inspiré Stanislas Jerzilek pour une de ses meilleures boutades. Sa conscience était pure, elle n'avait jamais servi. Certains, en revanche, utilisent leur conscience, mais ils n'y réfléchissent que quand ils sont sur le point de commettre les pires atrocités. Le théâtre est le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie. Au nom de la conscience personnelle, on ment, on trompe, on trahit et on commet l'adultère. Il n'existe pas de péché que quelqu'un n'aurait pas commis en toute bonne conscience, et en détournant les commandements. L'archevêque de Cologne, Mgr Dick, explique le lien entre commandement et conscience à l'aide d'une anecdote. Imaginons que des enfants jouent au foot dans le salon. Le père entre et se fâche. « Écoutez, il y a ce beau vase ancien. Si vous le cassez, maman sera inconsolable. Donc sortez, jouez dehors. » Les enfants ont donc le choix. Soit ils sortent, soit ils continuent à jouer au foot dans le salon et risquent la catastrophe. Les enfants connaissent donc le commandement. Leur conscience est formée, ils connaissent les conséquences négatives d'une mauvaise décision. Et c'est le même topo à chaque fois que l'on fait appel à sa conscience. On doit vérifier ses actions par rapport au commandement. Pour ce faire, il vaut mieux connaître les 10 commandements. Il vaut mieux savoir que le mensonge, l'orgueil, le vol, la jalousie, la rancune, déshonorer quelqu'un, l'adultère et le meurtre ne représentent jamais une option. Ça ne se fait pas. Or, certains voient une contradiction entre Jésus, qui nous a apporté l'amour, et l'Ancien Testament, ou ce qu'ils considèrent comme étant une horrible religion légaliste. Ils citent saint Augustin qui a dit un jour « Aime et ensuite » fais ce que tu veux. Ils utilisent cette citation pour enjoliver leurs fautes qu'ils commettent, poussés par leurs instincts. Mais ni Augustin ni Jésus n'apprécient la manœuvre. Augustin voulait dire : si tu avais vraiment reconnu l'amour, Si tu étais vraiment dans l'amour, tu n'aurais plus besoin de commandements, tu agirais parfaitement. » Jésus a dit dans son discours des béatitudes, qui est souvent cité mais peu lu, « Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Jésus ne se contente pas de rappeler les commandements, il en rajoute une couche. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. C'est le même Jésus qui synthétise le grand commandement de l'amour, selon lequel tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et qui ajoute après, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Ça alors, l'Ancien Testament n'avait-il pas déjà décrété l'amour de Dieu et du prochain? Certes. Qu'y a-t-il donc de nouveau quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ce qui est nouveau, c'est que Jésus se pose lui-même comme référence, comme point de comparaison de l'amour. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et qu'est-ce que Jésus a bien pu faire en termes d'amour pour en être l'étalon de mesure? Il est mort pour nous, comme le dit saint Paul, alors que nous étions ses ennemis. Bref, pour résumer, le nouveau commandement de l'amour, c'est l'amour de l'ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est du grand art. Dans l'histoire des religions, l'amour de l'ennemi constitue une exception. À tel point que l'auteur musulman Navid Kermani a dit que les chrétiens devaient en être très fiers et l'arborer fièrement sur le front comme un diadème. Jésus nomme l'amour du prochain et l'amour de soi dans une même phrase, cela vaut la peine d'être relevé. Il y a des mères qui ne pensent jamais à elles-mêmes, ça se termine en burn-out. S'aimer soi-même est tout autant un commandement qui oblige, au même titre que l'amour du prochain.